BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. La question est, comment supprimer toutes ces normes qui pèsent sur le PIB français? En tous les cas, les chiffres les plus fous circulent. C'est la France, ce pays aux 400 000 normes. Louis-Marguerite, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous êtes député Renaissance. Et justement, vous êtes en charge de ce projet de loi sur la simplification administrative que devrait présenter Bruno Le Maire. Vous avez, il y a des tas de rapports, on reviendra un peu sur la méthodologie. Vous avez déjà des propositions à faire que vous allez nous faire tout à l'heure. On reviendra aussi sur qu'est-ce qui va se passer demain, Gabriel Attal. Quelles propositions il va faire devant les agriculteurs. D'abord, peut-être un mot sur cette décision du Conseil constitutionnel, quand même, qui censure largement le texte sur l'immigration. Qu'est-ce qui va se passer là?
Bah écoutez, d'abord le Conseil constitutionnel, il a jugé en droit et pas en opportunité.
Non, ok, oui, bien sûr, oui,
c'est donc, sûr. Et d'abord, il y a des choses qui sont peu surprenantes. Je pense notamment à la question des quotas, qui avait été toute immédiatement identifiée comme étant potentiellement un cavalier législatif. Il y avait aussi la question des cautions étudiantes aussi, et sur lequel nous n'étions pas spécialement très à l'aise. C'est peut-être pas la mesure la plus opportune.
La réforme de l'AME.
L'AME avait été écartée, on s'en souvient effectivement, et renvoyée à un débat ultérieur. Et puis il y avait la question de la proportionnalité, vous savez, des délais de carence, c'est-à-dire à partir de quand on peut toucher des prestations sociales dites contributives ou non contributives, ce qui existe d'ailleurs pour des Français qui reviennent sur notre sol. Et effectivement, il y avait une question de proportionnalité, je vais regarder dans les détails, mais je comprends effectivement que c'est aussi
sûr. Oui, effectivement, on a juste là, j'ai devant moi le compte rendu du Conseil constitutionnel sur la question de l'immigration économique. Vous savez comment, qu'est-ce qui se passe?
J'ai le sentiment que ça n'a pas été touché. C'est par ailleurs été...
On parle pas pour l'instant.
En tout cas, moi, je comprends qu'ils l'ont laissé en l'état. C'est effectivement la capacité de faire déjà ce qu'on faisait déjà un petit peu jusqu'à présent, depuis la fameuse circulaire Valls, c'est-à-dire des métiers dits en tension. Moi, j'ai des demandes, d'ailleurs, notamment dans mon département, effectivement, notamment dans la restauration, le bâtiment, où effectivement, comme on manque de main-d'œuvre déjà en France, on a cette immigration économique. Donc, je crois que cette logique du cas par cas et aux situations par situation a vocation à s'appliquer, effectivement.
Bon, maintenant, il va se passer quoi? Parce que ça a quand même laissé des traces partout, au sein de votre majorité, si on peut appeler ça une majorité. En tous les cas, au sein de votre parti, avec la partie de gauche, certains n'ont pas voté le texte. Des députés de droite l'ont voté. On voit que ça va être très très difficile. Il y a une nouvelle réforme, une nouvelle loi qui va être proposée sur l'immigration.
Ce sera au gouvernement d'en juger. Je suis pas sûr.
Mais vous êtes député.
Bien sûr. Je pense que là, on a je comprends que le Conseil constitutionnel a validé l'intégralité du texte initial, qui était le texte du gouvernement, qui effectivement prévoyait, comme on le disait, des mesures de régularisation au cas par cas, en tout cas métier par métier, secteur en tension par secteur en tension. Et puis des mesures, et c'est important de le dire, qui permettent d'expulser plus rapidement ceux qui commettent des délits graves et des actes extrêmement graves sur notre territoire. Ça a été préservé. Moi, je suis pas totalement sûr qu'il faille aller plus loin. Le Conseil constitutionnel est passé par là. Après, pour répondre à votre question, d'abord, je vous rassure, c'est bien une majorité, même s'il y a eu des débats au sein de notre majorité, à l'évidence, et ça a été parfois des débats difficiles. Pour autant, je pense que maintenant aussi, il faut qu'on se recentre. On va en parler sur les projets de loi économique, le travail, parce qu'il y a aussi tout un chantier et on est très attendu là-dessus.
Juste l'enjeu en valait la chandelle.
Oui, parce que oui, bien sûr que ça en valait la chandelle, moi, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que vous faites quand on voit effectivement qu'il y a des OQTF qui sont pas systématiquement raccompagnés, même si les préfets font beaucoup d'efforts. Donc oui, ça en valait le jeu, parce que ne pas le traiter, ça aurait été reculer devant les difficultés.
Juste Louis-Marguerite, puisque vous parlez de l'Assemblée nationale, vous êtes député, c'est normal. Vous avez voté l'augmentation des frais de 300 € pour les frais de mandat des députés. Est-ce que c'était vraiment le moment?
D'abord, ça n'a pas été voté, c'était une décision. Je peux comprendre que ça pose des questions. Moi, j'ai des questions dans ma circonscription. J'entends que ça puisse poser des questions. Je cherche pas spécialement à la justifier.
C'est une décision qui a été prise à l'unanimité, quand même.
Sans doute. Alors, je peux entendre la critique sur ces questions. Je pense pas que ce soit le sujet de préoccupation à numéro un. Simplement pour donner un élément d'explication, c'est pas du salaire, ce sont pour nos frais.
C'est les frais de mandat.
C'est par exemple pour nos permanences. Moi, j'en ai deux, une à Chalon, une à Montceau-les-Mines. Donc, encore une fois, c'est aussi pour payer aussi nos collaborateurs en plus lorsque l'enveloppe ne suffit pas. Enfin bref, il y a des capacités à. Et par ailleurs, effectivement, c'était un rattrapage de l'inflation de ces deux dernières années. Je peux entendre que c'est la critique, peut-être que voilà. Mais
vous le regrettez?
Peut-être que le fait que ce soit publié aujourd'hui est peut-être pas totalement opportun, mais néanmoins
mais sur le fond, vous restez
sur le fond, il faut bien qu'on paye les prestations. Moi, j'ai organisé
déjà à 5645 euros. Mais moi, passé à 5950 euros.
D'abord, et ce sont des frais strictement cadrés. Depuis d'ailleurs 2017, on a voté d'ailleurs plein de restrictions et on a eu raison de le faire. Avant, il n'y avait pas de justificatif qui était produit par les députés. Maintenant, c'est le cas et c'est très
maintenant,
bien.
Il y en a.
Sur les loyers de nos permanences, sur nos frais de déplacement, enfin, ne serait-ce que l'essence des automobiles, etc. Donc, bien sûr.
Bon. Louis-Marguerite, vous êtes député de Saône-et-Loire. Vous allez donc, votre circonscription, elle va de Chalon-sur-Saône à Montceau-les-Mines.
Oui.
Les agriculteurs, vous connaissez, vous en avez beaucoup chez vous, en difficulté. Vous avez des lignes ferroviaires qui ont été bloquées. Qu'est-ce que demain, Gabriel Attal va apporter aux agriculteurs? Est-ce qu'il va trouver des solutions qu'il annonce? Il n'est pas évidemment tout nous les dire, mais qu'est-ce qu'il va annoncer? Qu'est-ce qu'il peut annoncer?
Je pense qu'il y a un peu deux séries de mesures. Il y a des séries de mesures autour de la simplification. Je pense qu'on en reparlera aussi pour les entreprises. Mais moi, j'ai eu des cas très précis, effectivement, où les agriculteurs me disent mais moi, mon métier, c'est de m'occuper de mes bêtes, c'est de m'occuper de mes champs, c'est de m'occuper de mes semences, c'est de m'occuper du métier que j'aime et de ma passion. Et ils passent de plus en plus de temps, comme je le dis, comme l'intégralité des chefs d'entreprise. Il y a par ailleurs des difficultés sur les mesures liées à la PAC. Vous savez, la politique agricole commune, toutes les subventions, elles sont maintenant.
Et alors, vous avez des subventions, il faut bien avoir quand même.
Bien sûr, mais elles sont, par exemple, il se trouve que dans mon département, elles sont délivrées par la région Bourgogne-Franche-Comté et il y a eu des grosses difficultés. Il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas été payés pendant plusieurs mois des aides qui leur sont dues.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, c'est une compétence qui a été transférée aux régions et les services n'étaient pas prêts pour des raisons, etc. Des raisons qui ne sont pas audibles, d'ailleurs, pour ceux qui, effectivement, sont censés bénéficier de cela. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on agisse beaucoup plus vite. Il faut qu'on délivre ces montants qui sont dus aux agriculteurs, ne serait-ce que pour soulager leur trésorerie, parce que beaucoup d'entre eux se sont endettés pour acheter le foncier à un certain prix. Et là, évidemment, on a un sujet de modèle et de pérennisation du
modèle.
Vous
avez vu ce qu'a demandé Aurélien Rousseau, le président de la FNSEA. Est-ce que ça vous paraît audible?
C'est audible et légitime puisque c'est une discussion qui a lieu en ce moment même entre le gouvernement et entre les organisations syndicales. Je précise aussi que la FNSA, il y a les autres aussi syndicales, coordination rurale, confédération,
qui sont d'ailleurs présidée par Véronique Le Floch,
qui par ailleurs portent aussi des revendications qui peuvent pas toujours être alignées avec la FNSA. Donc il faut faire le miel de tout ça et effectivement voir comment on en sort. Donc moi j'entends le GNR. Il y a deux sujets sur le gazole non routier. C'est une vraie difficulté parce que il faut savoir que les agriculteurs, comme beaucoup d'autres professions, parce qu'ils n'ont pas d'alternative, notamment électrique, utilisent un gazole qui est détaxé. Et effectivement, il y a deux sujets. Déjà, ils mettent du temps à avoir ce remboursement de détaxe. Parfois, ça peut durer plus d'un an. Donc là-dessus, il faut qu'on soit sans doute beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, comme on peut l'être sur un crédit d'impôt, par exemple. Lorsqu'on a de l'emploi à domicile, on a un crédit d'impôt qu'on perçoit. Donc ça soulage la trésorerie des particuliers. Pourquoi pas le faire sur nos agriculteurs? Et puis, par ailleurs, il y avait eu un projet dans le projet de loi de 2024 qui permettait un retour effectivement de cette taxe, et je comprends que ça va être l'objet des discussions de ces prochaines heures.
Ça va être surtout là-dessus. Je sais pas si vous avez vu cette déclaration de Pascal Canfin, à nos confrères d'AFP, il y a quelques minutes, j'ai envie de dire. Il dit, Pascal Canfin, donc il est député Renew à Bruxelles, mais surtout il est président de la commission environnement, c'est un ex-vert entre guillemets, et lui il dit que carrément le statu quo est impossible. Donc, il faut des normes, il faut faire converger agriculture et écologie, mais peut-être avec de nouvelles méthodes. Mais enfin, on voit bien qu'il y a quand même des sons de cloche très différents. Hein.
Non, mais on ne dit pas forcément des choses très très différentes, parce que alors après c'est une question de modalité d'application. Je pense que les agriculteurs, moi j'en ai rencontré beaucoup depuis que je suis élu, depuis juin 2022, j'en ai rencontré beaucoup. Moi j'ai beaucoup d'éleveurs, j'ai aussi un peu quelques éleveurs laitiers, mais j'ai beaucoup d'éleveurs bovins, j'ai des viticulteurs bien sûr, et puis beaucoup d'autres filières, et ils me disent tous on entend, et puis d'abord on vit tous dans la même société, donc on sait bien qu'il y a un moment donné
mais
c'est une question de rapidité. Je pense que c'est vraiment une question,
donc il faut le Green Deal qui n'est pas encore appliqué, mais il faut continuer à appliquer ces normes écologiques, mais il faut y aller plus lentement. C'est ça votre position?
Plus lentement, et toujours de façon...
C'est vous qui êtes en charge.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Par exemple,
il faut qu'on ait une vitesse d'exécution, une vitesse effectivement de convergence qui soit compatible avec la réalité du métier de nos agriculteurs.
Mais concrètement, ça donne quoi?
Par exemple, le glyphosate. On sait que l'ordre, enfin en tout cas le mouvement naturel, c'est d'aller vers moins de phytosanitaires en général. On sait, et c'est partagé, y compris par les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes sont en contact.
Combien combien de temps? Parce que je mentionne Christiane Lambert ici même, lorsqu'il était président de la FNSEA, qui disait, mais donnez-nous du temps qu'on ait déjà... qu'on puisse trouver au moins d'autres substituts.
Je sais que c'est pas populaire, mais de fait, on n'a pas encore trouvé tous les substituts à l'absence du glyphosate.
Ouais, c'est pour
ça.
Ouais.
Mais je sais, mais c'est difficile parce que d'abord, ça demande de la recherche, parce que ça demande des investissements, etc., y compris de la recherche publique. Et donc, le glyphosate, effectivement, on a fait partie de ceux qui avons dit, entre l'interdiction immédiate et l'autorisation sans aucune limite, eh bien, effectivement, on s'est donné un peu plus de temps sur le glyphosate. Je dis pas que ça résout tout de suite la question, mais ça permet de donner un peu de visibilité. Donc oui,
demain, il y aura des annonces de normes qui vont être, entre guillemets, suspendues.
Je sais pas, je suis pas dans le cœur de ces discussions-là, mais en tout cas, c'est une question, effectivement, qu'on doit se poser. Mais la question du GNR, au-delà de l'aspect fiscal et l'aspect trésorerie, qui est très important, c'est quel est le moyen de substitution pour nos agriculteurs? Pour l'instant, il n'existe pas. Il y a des petits matériels électriques, mais il n'y en a pas des très grands. Et effectivement, c'est cette question-là qu'on doit se poser.
Alors, la loi Pacte 2, annoncée, relayée aussi par le président Macron, annoncée par Bruno Le Maire, il y a eu 6 semaines de consultations sur le terrain, en ligne, auprès des chefs d'entreprise. Et maintenant, il y a des rapports. Et notamment, vous êtes un des rapporteurs, enfin, pas le rapporteur officiel de ce projet de loi. Enfin, en tous les cas, c'est vous qui restituez tout ce qui est remonté, notamment des chefs d'entreprise, auprès de Bercy. Qu'est-ce qui va se passer là? Juste qu'il y a quelques chiffres qu'il faut quand même rappeler. Vous avez donc 400 000 normes. Ça fait perdre entre 1,5 à 3,5% du PIB, de points hein, de PIB. Vous avez 11 176 articles du Code du travail, 7 800 dans le Code du commerce, le Code rural. En 2023, il avait 3 280 pages. Contre 841 en 1965. Donc, je veux dire, chaque gouvernement, il empile son millefeuille.
Bien sûr, c'est 3% du PIB, comme vous l'avez indiqué, c'est 70 milliards d'euros par an, donc c'est absolument considérable.
Vous dites 3%, parce que les économistes disent 3,5%.
C'est évidemment dur d'être très précis sur ces chiffrages, mais globalement, c'est à peu près ça, 70 milliards. C'était chiffré d'ailleurs dans un rapport du Sénat qui est sorti il y a quelques mois. L'objectif, il est de plusieurs ordres. D'abord, il est de rendre des minutes et des heures précieuses à nos chefs d'entreprise, à nos dirigeants, qui ont autre chose à faire que de remplir. Et ce temps de remplissage et de communication et de lien avec toutes les administrations, pas que l'administration de l'État, d'ailleurs toutes les collectivités, tous les agents publics, eh bien, a pris un pas beaucoup très démesuré par rapport à ce que c'était avant. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de passer à une logique, il y a certains secteurs de l'administration où c'est le cas, mais c'est pas le cas partout, d'une administration qui est aidante, qui essaie de résoudre les problèmes qu'on lui apporte, qui conseille, qui accompagne. C'est passer vers cette logique-là, alors qu'on est souvent, on a la perception qu'on est dans une administration qui contrôle, qui régule, et qui sanctionne. Donc il faut d'abord conseiller avant de sanctionner. C'est très important.
Et d'accord. Et dans ce rapport là, parce que vous, je crois que d'après ce que j'ai lu de vos déclarations, vous êtes pour assouplir les règles sociales qui s'imposent que les entreprises franchissent des seuils. Est-ce que vous êtes pour la suppression des seuils? Est-ce qu'on passe de 11 à 50? Est-ce qu'on... Non. Comment fait-on?
La suppression, non, parce que c'est normal que quand l'entreprise grossisse dans l'absolu, on est effectivement des nouveaux critères qui s'appliquent, parce que quand la taille est grande, on gère pas une grande comme une petite, voire une très petite. Et c'est aussi deux choses différentes. On a globalement trois catégories de seuils qu'on avait déjà simplifiées,
oui.
Dans Pacte 1 en 2018-2019. Donc c'est grosso modo 11, 49 et 250 salariés.
Ouais. Donc on supprime le 49.
Alors sans aller jusqu'à la suppression, moi j'ai proposé, mais c'est pour la qualité du débat, que le 11 passe à 49, que le 49 passe à 250, que le 250 passe au-delà. Peut-être qu'on n'y arrivera pas dans ces termes-là, mais en tout cas, on peut au moins se poser la question qu'un certain nombre de critères de ces seuils puissent effectivement, gagner un étage, ça c'est le premier point. Peut-être que le 11, on peut le rehausser, par exemple à 20. Est-ce que le 50, il faut le rehausser aussi un peu? Ça, c'est une discussion qu'on doit avoir bien sûr avec tous les acteurs, les partenaires sociaux bien évidemment, parce qu'ils sont concernés
Mais c'est uniquement dans les normes sociales que vous pensez?
Non, il n'y a pas que des normes sociales, il y a des normes, il y a du déclaratif, il y a aussi un peu de fiscal et social, parce que c'est pas totalement neutre. Parce qu'il y a des seuils d'exonération. Alors, il faut voir comment on les compense. Peut-être, il faut qu'on regarde ces sujets-là. L'exercice est en train d'être mené à Bercy et dans les autres ministères. Donc, ça, c'est vraiment ces questions-là. Je pense qu'il faut vraiment être vraiment dans l'analyse très fine de tous ces seuils pour qu'on puisse dégager du temps à nos chefs d'entreprise. C'est vraiment ça l'enjeu. Et puis, moi, j'ai proposé aussi sur des questions de formulaire. Enfin, encore une fois, sous contrôle de mes collègues, parce que ce rapport, je le rédige avec quatre autres collègues députés et sénateurs. Moi, je propose que sur, par exemple, les 50 formulaires ou les 40 40 ou mettons 100 formulaires les plus importants ou les plus utilisés par nos compatriotes, par nos concitoyens, eh bien on puisse se dire, eh bien tous ces formulaires là on divise par deux leur taille, voilà, et puis on ait une revue très précise. Par exemple, on utilise encore dans certains formulaires la notion de nom patronymique. Je pense que plus personne n'utilise la notion de nom patronymique. Nom de famille suffit amplement à bien comprendre ce dont on a besoin.
Mais qu'est-ce qu'il y a, il y a d'autres est-ce qu'il faut adapter les normes en fait à la taille de l'entreprise?
Bien sûr, bien sûr, il faut que ce soit plus simple.
Des requêtes des chefs d'entreprise.
Il faut que ce soit très très simple d'abord pour les très petites entreprises. Ouais. Là, on est vraiment sur 0 à 11. Les artisans, les commerçants, nos professionnels libéraux qui, enfin, sont leurs propres patrons par nature. Ce sont souvent des indépendants dont on a d'ailleurs protégé le patrimoine il y a quelques mois. Donc bien sûr, et c'est normal qu'au fur et à mesure que l'entreprise grossisse, il y ait un petit peu plus d'attendu de l'entreprise.
Mais simplifier les fiches de paye, vous l'avez
oui aussi, ça
c'est
fait partie.
C'est maintenu dans vos propositions.
C'est maintenu dans nos propositions. Simplifier les fiches de paye, ne serait-ce que pour sa lecture. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on a de l'emploi à domicile, c'est relativement simple. Lorsqu'on a, par exemple, quelqu'un qui s'occupe du ménage chez soi, qui s'occupe peut-être de l'aménagement de la maison, peu importe, on a de l'emploi à domicile, qui s'occupe du jardin. C'est relativement simple. Vous déclarez votre montant, vous déclarez les heures faites, le mois, la date de naissance éventuellement, mais on a des informations assez simples. Pourquoi on n'est pas capable de l'étendre aussi sur les entreprises? C'est déjà un peu le cas, mais pas totalement encore. Et voilà, donc tout ce qui marche déjà un petit peu, il faut l'étendre partout. Et je termine par un point. Il y a vraiment une question qui est très centrale, c'est le vrai, dites-le-nous une fois. Ce qui rend dingue les chefs d'entreprise.
Dites-le-nous une fois.
C'est vraiment un vrai dites-le-nous une fois. On l'a déjà dit, je sais qu'on l'a déjà dit depuis plusieurs fois, c'est le cas de le dire, mais il faut qu'on puisse être en mesure de faire sauter toutes les dérogations à cette règle qui doit être la règle du bon sens.
Le résultat des courses, c'est pour quand?
Alors nous, on remet un rapport dans quelques jours maintenant, début février, au ministre Bruno Le Maire. On se parle d'un projet de loi dans le premier semestre, donc c'est un exercice que nous menons. On a fait beaucoup de réunions publiques sur le terrain avec mes collègues parlementaires, on va continuer à en faire et c'est très important d'avoir cet échange.
Et pourquoi vous allez réussir là où Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal, pourtant avec une volonté très très forte du gouvernement de François Hollande, pourquoi vous allez réussir là où ils ont échoué malgré, et on connaît leur énergie?
Bon, d'abord, c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas essayer de le faire, c'est le propre, mais surtout, moi je trouve que c'est un peu sévère de dire qu'ils ont pas réussi, parce que Thierry Mandon, avec qui j'ai échangé, a déjà créé la DSN, donc c'est la fameuse déclaration des salaires, et déjà ça va être un objet de simplification. Après,
par rapport à leurs ambitions, c'était...
Non, mais regardez dans Pacte, on avait dit la montagne va coucher nous souris, on a fait ces réductions de seuil, donc on est capable de le faire, mais il faut aller plus loin.
Vous avez une idée de quand est-ce qu'on aura un nouveau gouvernement? Peut-être éventuellement faire partie.
C'est vraiment le président de la République, le Premier ministre qui seront. Mais bien sûr, on se parle de quelques heures ou quelques jours après la déclaration politique générale. Donc j'imagine fin de semaine prochaine, mais là encore, c'est pas moi qui décide.
Merci beaucoup, Louis Marguerite, député Renaissance. Donc en charge de ce projet de loi sur la simplification administrative.